Samuel Johnson, Histoire de Rasselas, prince d'Abyssinie, chapitre 36 à 40. Chapitre 36, on se souvient encore de Pekoua, marche du chagrin. Nekaya, voyant qu'on ne négligeait rien pour retrouver sa favorite, et ayant promis d'ajourner ses projets de retraite, revint peu à peu à ses occupations et à ses plaisirs. Elle trouvait du charme, sans se l'avouer, à la suspension de ses chagrins, et quelquefois elle se surprenait avec indignation, cherchant à éloigner de son esprit le souvenir de celle que cependant elle avait résolu de ne jamais oublier. Alors elle se fixa une certaine heure du jour pour penser au mérite et à la tendresse de Pekoua, et pendant quelques semaines, elle se retirait exactement au temps désigné, puis revenait les yeux gonflés et l'air abattu. Peu à peu, cette observation devint moins rigide. Nekaya commença par retarder l'heure de ses larmes et par s'autoriser de toute cause sérieuse de distraction. Elle céda bientôt à des motifs moins pressants. Quelquefois, elle oublia ce qu'elle craignait de se rappeler. Enfin, elle se dispensa tout à fait de ce culte périodique d'affliction. Ce n'est pas que sa tendresse pour Pekoua fût diminuée. Mille occasions la représentaient à son souvenir, et mille besoins que l'amitié peut seule satisfaire faisaient revivre ses regrets. Elle pria Imlac de ne jamais abandonner les recherches et de ne négliger aucun expédient afin d'avoir au moins la consolation de savoir que ses peines n'étaient prolongées ni par insouciance ni par oubli. « Que pouvons-nous attendre, dit-elle, de la recherche du bonheur, lorsque la condition de notre existence est telle que le bonheur lui-même est la cause de la peine? Pourquoi essayer d'obtenir des biens dont la possession ne saurait être sûre ? Je craindrai désormais d'abandonner mon cœur au mérite, quelque éclatant qu'il soit, à l'affection, quelque tendre qu'elle paraisse, de peur d'avoir encore à perdre ce que j'ai déjà perdu. » Chapitre 37. La princesse reçoit des nouvelles de Pekoua. Au bout de 7 mois, revint un des messagers qui avait été expédié le jour même de la parole donnée par la princesse. Après plusieurs courses inutiles, il arrivait des frontières de la Nubie, annonçant que Pekoua était entre les mains d'un chef arabe, maître d'un château fort vers l'extrémité de l'Égypte. Cet arabe, qui ne vivait que de butin, consentait à la rendre avec ses deux femmes pour 200 onces d'or. Il ne pouvait y avoir difficulté quant à la rançon, et la princesse fut dans l'extase de la joie en apprenant que sa favorite vivait et pouvait lui être rendue moyennant un si modique sacrifice. Pour ne pas retarder d'un seul instant le bonheur de Pekoua et le sien, elle supplia son frère de renvoyer cet homme à l'instant même avec la somme demandée. Imlac fut d'avis de ne pas trop imprudemment se fier au récit du négociateur. Il doutait d'ailleurs encore plus de la bonne foi de l'arabe, qui pouvait abuser d'une confiance imprudente pour retenir à la fois l'argent et les captives. Il pensait aussi qu'il était dangereux de se mettre à sa merci en hasardant un voyage dans les lieux où s'étendait sa puissance. De notre côté, on ne devait pas espérer que le forban consentît à exposer sa personne au point de venir dans la basse Égypte où les troupes du pacha pourraient s'emparer de lui. Les négociations sont difficiles quand de part et d'autre il y a défiance. Mais Imlac, après avoir un moment réfléchi, chargea le messager de demander que Pekoua fût conduite par 10 hommes à cheval au monastère de Saint-Antoine, situé dans les déserts de la Haute-Égypte, où se rencontrerait un même nombre de cavaliers et où on paierait la rançon. Afin d'éviter toute perte de temps, et comme on ne doutait pas que la proposition ne fût acceptée, on se mit immédiatement en route pour le monastère. Et lorsqu'on y fut arrivé, Imlac alla en avant avec le messager vers la forteresse de l'Arabe. Rasselas désirait les accompagner, mais Imlac ni la princesse ne voulurent y consentir. L'arabe, suivant l'usage de sa nation, observait les lois de l'hospitalité avec une grande exactitude envers ceux qui se mettaient d'eux-mêmes en son pouvoir. Il conduit Pekoua à petite journée à l'endroit convenu où, moyennant le prix stipulé, il la rendit à la liberté et à ses amis avec de grandes marques de respect. Il offrit de les reconduire au Caire pour les garantir de tout danger de vol ou de violence. La princesse et sa favorite s'embrassèrent avec des transports difficiles à exprimer. Elles se retirèrent ensemble pour donner un libre cours à leur attendrissement et pour épancher entre elles les protestations de tendresse et de reconnaissance. Au bout de quelques heures, elles retournèrent au réfectoire du couvent, où, en présence du prieur et des moines, Rasselas pria Pekua de raconter ses aventures. Chapitre 38. Aventure de Pekua. Le moment et les circonstances de mon enlèvement, dit Pekua, vous sont connus par le récit de vos serviteurs. L'agression fut si soudaine que j'éprouvai d'abord plus de stupeur que de crainte ou de désespoir. La confusion de mes idées s'accrut encore par la rapidité tumultueuse de notre fuite, lorsque nous fûmes suivis par les Turcs, qui d'ailleurs parurent bientôt ou désespérés de nous atteindre, ou, malgré leur attitude menaçante, redoutaient effectivement d'en venir aux mains. Quand les Arabes se virent hors de danger, ils ralentirent leur course, et à mesure que l'agitation physique devint moins violente, je commençai à sentir plus douloureusement ma situation. Nous nous arrêtâmes quelques moments après au bord d'une source ombragée d'arbres, dans une riante prairie. On nous déposa sur l'herbe et nos maîtres nous firent offrir une part des rafraîchissements qu'ils prenaient eux-mêmes. On me permit de m'asseoir avec mes suivantes à quelque distance, sans que nul songeât à nous consoler ni à nous faire aucune insulte. C'est alors que, pour la première fois, je sentis tout le poids de ma misère. Mes femmes étaient assises, pleurant en silence, et de temps en temps me regardaient, comme pour me demander du secours. Je ne savais ni quel sort nous attendait, ni quel serait le lieu de notre captivité, ni d'où pourrait nous venir quelque espoir de délivrance. J'étais entre les mains de brigands étrangers à toute civilisation. Je ne pouvais raisonnablement leur supposer plus de pitié que de justice, ni espérer qu'ils se fissent scrupule de satisfaire l'emportement de leurs désirs ou les caprices de leur cruauté. Cependant, j'embrassai mes femmes et j'essayai de les calmer en leur faisant remarquer que nous étions traités jusqu'ici avec décence et que nos ravisseurs étant hors de portée de nos ennemis, nos jours ne couraient aucun danger. Lorsqu'il s'agit de nous replacer sur les chevaux, mes femmes se pressèrent autour de moi et refusèrent de se séparer de leur maîtresse. Mais je leur ordonnai de ne pas irriter ce qui nous avait en leur pouvoir. Nous voyageâmes le reste du jour dans un pays sauvage et sans route tracée, et nous arrivâmes au clair de lune sur le penchant d'un coteau où campait le reste de la troupe. Leurs tentes étaient dressées et les feux allumés. Notre chef fut accueilli, un homme très aimé de ceux qui dépendaient de lui. On nous reçut dans une grande tente où nous trouvâmes des femmes qui avaient suivi leur mari dans cette expédition. Elles placèrent devant nous le souper qu'elles avaient préparé, et je mangeais plutôt pour donner du courage à mes suivantes que pour satisfaire mon appétit. Le repas enlevé, elles étendirent des tapis pour dormir. J'étais fatigué et j'espérais trouver dans le sommeil un adoucissement que la nature refuse rarement à nos maux. J'ordonnai que l'on me déshabillât. Les femmes me regardaient avec attention, ne s'attendant pas, je le suppose, à me voir servi avec tant de soumission. Après que mon manteau de dessus fut ôté, elles parurent frappées de la richesse de mes vêtements, et une d'elles posa timidement sa main sur la broderie. Alors elle sortit et peu de temps après revint avec une autre femme qui semblait avoir un plus haut rang et une plus grande autorité. Elle fit en entrant le salut ordinaire et me prenant par la main me conduisit dans une petite tente garnie de plus beaux coussins où je passai tranquillement la nuit avec mes femmes. Le lendemain, comme j'étais assise sur l'herbe, le chef de la troupe vint vers moi. Je me levai pour le recevoir et il me salua avec un grand respect. « Illustre dame, dit-il, la fortune m'a favorisé au-delà de mes espérances. Mes femmes m'ont dit que j'avais une princesse dans mon camp. Vos femmes, répondis-je, sont tombées dans une erreur qu'elles vous ont fait partager. Je ne suis pas princesse. Je suis une malheureuse étrangère qui devait bientôt quitter ce même pays où me voilà maintenant prisonnière pour toujours. » « Qui que vous soyez et de quelque pays que vous veniez, reprit l'arabe, vos vêtements et ceux de vos servantes annoncent un rang élevé et une haute fortune. Pourquoi, avec tant de moyens de fournir votre rançon, vous croire menacé d'une captivité éternelle? Le but de mes courses est d'augmenter mes richesses, ou, pour parler plus juste, de lever des impôts. Les descendants d'Ismaël sont les maîtres naturels de cette partie du continent, qu'une usurpation récente a mis dans les mains d'ignobles tyrans, et nous sommes obligés de leur arracher par la force ce qu'ils refusent à la justice et à nos droits. La dure condition de la guerre n'admet pas de distinction. La lance dirigée contre le crime et la puissance frappe quelquefois l'innocence et la faiblesse. Hélas, m'écriai-je, me serais-je attendu hier que ce serait moi qu'elle atteindrait aujourd'hui ?
On doit toujours s'attendre au mal, dit l'arabe. Si l'œil d'un ennemi armé pouvait connaître le respect ou la pitié, un mérite comme le vôtre serait à l'abri de toute injure. Mais les anges de l'affliction tendent leur toile pour les bons comme pour les méchants, pour le puissant comme pour le faible. Cessez de vous abandonner au désespoir. Je ne suis pas un de ces forbans du désert qui n'ont ni loi ni pitié. Je connais les devoirs de l'homme civilisé. Je fixerai votre rançon. Je vous donnerai un passeport pour un messager. Et je serai fidèle à toutes mes promesses.
Jugez si je fus charmé d'une telle courtoisie. En voyant que l'or était sa passion dominante, je sentis mon malheur moins grand, car je savais qu'aucun sacrifice ne coûterait pour délivrer Pekua. Je lui répondis qu'il n'aurait pas à m'accuser d'ingratitude si j'étais traité avec douceur et qu'on lui paierait une rançon convenable pour une fille de condition ordinaire, mais qu'il ne devait pas persister à m'évaluer en princesse. Il me promit d'y réfléchir, me salua en souriant et se retira. Bientôt après, les femmes vinrent près de moi, en rivalisant d'empressement, et mes suivantes furent servies avec respect. Nous voyageâmes à petite journée. Le quatrième jour, le chef me dit qu'il lui fallait 200 onces d'or pour ma rançon. Je les lui promis, et je m'engageai de plus à en ajouter 50, si moi et mes femmes nous étions traités honorablement. Je ne connaissais pas le pouvoir de l'or. De ce moment, je fus le véritable chef de la troupe. Chaque jour, je réglais la marche à mon gré, et l'on dressait les tentes là où il me plaisait de prendre du repos. Nous eûmes des chameaux et toutes sortes de commodités pour le voyage. Mes femmes étaient toujours à côté de moi, et je pris plaisir à observer les mœurs de ces nations nomades, ainsi qu'à voir les restes des beaux édifices dont ces contrées désertes, avaient autrefois été couvertes avec profusion. Le chef de la troupe n'était pas dépourvu d'instruction. Il connaissait la direction des astres et de la boussole, et il n'y avait pas un endroit digne de l'attention du voyageur qu'il n'eût visité dans ses courses errantes. Il me fit remarquer que les édifices se conservaient toujours mieux dans les endroits peu fréquentés et d'un accès difficile. En effet, lorsqu'un pays vient à déchoir de sa splendeur, plus il reste d'habitants, plus le progrès des ruines est rapide. On trouve des pierres plus facilement dans une muraille que dans une carrière, et on démolit les palais et les temples pour faire des étables de granit et des chaumières de porphyre. Chapitre 39. Continuation des aventures de Pekua. La troupe suivit pendant quelques semaines cette espèce de marche irrégulière, soit par égard pour moi, comme le prétendait notre chef, soit plutôt comme je le soupçonne pour sa propre convenance. Je tâchais de paraître résigné. Qu'aurais-je gagné en effet à montrer du dépit et du ressentiment ? Mes efforts servirent du moins à rendre le calme à mon esprit, mais mon cœur était toujours avec Nekaya, et le trouble de mes nuits me faisait payer cher les diversions de la journée. Mes femmes, dont toute la sollicitude se concentrait sur leur maîtresse, mirent leur esprit en repos quand elles me virent traiter respectueusement et s'abandonnèrent sans inquiétude ni souci aux distractions que les incidents du voyage pouvaient leur offrir au milieu de leur fatigue. Je jouissais de leur joie et je reprenais du cœur en voyant leur confiance. L'horreur de ma situation avait presque entièrement cessé par la certitude où j'étais que l'arabe ne cherchait rien que des richesses. L'avarice est une passion uniforme et traitable. Les autres vices se modifient suivant les variétés des caractères. Ce qui flatte l'orgueil de l'un révolte l'orgueil de l'autre, mais une voie est toujours ouverte à la faveur de l'homme avide. Montrez de l'or, vous n'aurez jamais de refus. Nous arrivâmes enfin à la demeure de notre chef, espèce de forteresse spacieuse, bâtie en pierre dans une île du fleuve située, m'a-t-on assuré, sous le tropique. « Madame, me dit l'arabe, vous allez reposer quelques semaines en cet endroit où vous devez vous regarder comme souveraine. La guerre est mon occupation. J'ai choisi cette retraite ignorée parce que je puis en sortir sans être aperçu et m'y retirer sans être poursuivi. Vous êtes ici en sûreté. Si l'on y trouve peu de plaisir, on n'y redoute du moins aucun danger. » Alors il me conduisit dans l'intérieur des appartements et, me faisant asseoir sur le plus riche sofa, s'inclina jusqu'à terre. Ces femmes, qui voyaient en moi une rivale, me regardèrent d'abord avec une jalouse malignité. Mais quand elles surent que j'étais une dame de haut rang,
qu'on retenait seulement pour sa rançon, elles me comblèrent à l'envi de prévenance et d'égards. Encouragé de plus en plus par ces assurances d'une liberté prochaine, je trouvai pendant quelque temps dans la nouveauté des lieux de quoi donner le change à mon impatience. Du haut des tours, la vue planait au loin et embrassait un grand nombre des sinusoïdes du Nil. Durant le jour, j'errai d'un site à l'autre pour jouir de tous les aspects de la campagne diversement éclairée par le soleil. Je vis une foule d'objets qui m'étaient tout à fait inconnus. Les crocodiles et les hippopotames abondent dans cette région déserte. Je ne les apercevais jamais sans effroi, bien que je me tinsse toujours hors de leur atteinte. Je m'attendais à voir aussi ces tritons et ces sirènes dont, suivant Imlac, les voyageurs européens placent la demeure sur les bords du Nil. Mais mon attente fut trompée, et lorsque je questionnai l'arabe à ce sujet, il se mit à rire de ma crédulité. Chaque soir, il m'accompagnait en haut d'une tour exclusivement destinée aux observations astronomiques, et là, il s'efforçait de m'instruire du nom et du cours de chacun des corps célestes. Je ne me sentais pas beaucoup d'inclination pour cette étude, mais il fallait montrer quelque attention pour plaire à mon maître, qui se piquait d'y être habile. Bientôt, je sentis le besoin d'une occupation pour tromper l'ennui de mes instants et la monotonie du spectacle qui m'entourait. J'étais excédé de revenir chaque matin aux objets dont je m'étais détourné avec dégoût la veille, et je me fis astronome pour avoir du moins quelque chose à faire. Mais je n'étais pas toujours maîtresse de ma pensée, et il m'arrivait bien souvent d'être avec Nekaya au moment où tout le monde me croyait le plus occupé des astres. Au bout de quelque temps, l'arabe partit pour une nouvelle expédition. Ma seule distraction fut alors de m'entretenir avec mes femmes des détails de notre enlèvement et du bonheur qui nous attendait au terme de notre captivité. « Il y avait des femmes dans la forteresse de votre arabe, » dit la princesse. « Que ne cherchiez-vous à en faire vos compagnes, à converser avec elles et à partager leurs plaisirs, dans un lieu où elles trouvaient à s'occuper et à se distraire? Pourquoi restiez-vous seule plongée dans une oisive mélancolie? Comment ne saviez-vous pas supporter pendant quelques mois une condition à laquelle elles étaient condamnées pour toute leur vie ?»« Les plaisirs de ces femmes, » répondit Pekua, « n'étaient que jeux d'enfants, incapables d'occuper un esprit habitué à de plus forts exercices, et je pouvais machinalement prendre part à leur jouissance pendant que toutes les puissances de mon âme étaient tournées vers le Caire. Elles couraient de chambre en chambre comme l'oiseau en cage saute de bâton en bâton. Elles dansaient par un instinct de mouvement, comme les agneaux bondissent dans une prairie. Quelquefois une d'elles se prétendait blessée, afin d'alarmer les autres ou se cacher pour se faire chercher. Elles passaient une partie de leur temps à suivre des yeux, tantôt les corps légers qui flottaient sur la rivière, tantôt les rapides transformations des nuages qui se dessinaient sous la voûte des cieux. L'aiguille était leur unique affaire, et mes femmes et moi les aidions quelquefois, mais vous savez combien l'esprit s'isole aisément de tout travail manuel, et vous ne supposez pas que Pekua, captive et séparée de Nekaya, pût se consoler en brodant quelques fleurs. Il n'y avait pas pu attendre de leur conversation, car de quoi auraient-elles pu parler, enfermées depuis leur jeunesse, dans le cercle étroit où je les avais trouvées? Elles n'avaient rien vu et n'avaient pu rien apprendre, puisqu'elles ne savaient pas lire. Elles n'avaient d'idée que du peu d'objets placés sous leurs yeux et ne connaissaient guère de mots que pour exprimer les choses nécessaires à leur habillement et à leur nourriture. Placées à leur égard dans une sorte de supériorité, on m'appelait souvent à terminer des querelles que je décidais avec toute l'impartialité dont j'étais capable. Si j'avais pu prendre plaisir à entendre leurs accusations continuelles les unes contre les autres, j'aurais écouté de bien longues histoires, mais les motifs de leur animosité étaient si frivoles qu'il m'était impossible de les supporter jusqu'au bout. « Comment, » dit Raslas, « l'arabe que vous représentez comme un homme d'un mérite au-dessus du commun, pouvait-il se plaire dans son sérail avec des femmes semblables à celles dont nous vous parlez? Sont-elles donc si belles ?»« Elles ne sont pas dépourvues, » dit Pekua, « de cette espèce de beauté morne et terne, sans expression, sans caractère, qui ne réfléchit ni la sensibilité de l'âme, ni la dignité de la vertu. Pour un homme comme l'arabe, la beauté n'est qu'une fleur qu'on cueille au hasard et qu'on rejette ensuite négligemment. De quelque nature que fût le plaisir qu'il trouvait près d'elle, il ne tenait rien des épanchements du cœur ou des agréments de la société. Quand elle jouait autour de lui, il laissait tomber sur elle des regards dédaigneux et inattentifs. Lorsqu'elle cherchait à la envie à obtenir un coup d'œil, il détournait souvent les yeux avec dégoût. comme elles étaient sans instruction, leur entretien n'offrait aucun remède à l'ennui. Séparées de toute idée de préférence, leur tendresse, ou plutôt l'apparence de leur tendresse, n'excitait en lui ni orgueil ni reconnaissance. Comment eût-il été relevé dans sa propre estime par le sourire d'une femme qui ne voyait d'autre homme que lui? Quel mérite attaché à des démonstrations dont la sincérité ne pouvait lui être prouvée et où il reconnaissait souvent l'envie de tourmenter une rivale plutôt que le désir de plaire? Ce qu'il donnait et ce qu'elle recevait à titre d'amour n'était que le vain remplissage de loisirs inoccupés. Ce n'était que cet amour qu'on éprouve pour ce qu'on méprise, cet amour qui ne connaît ni espoir, ni crainte, ni plaisir, ni peine. « Madame, dit Imlac, vous vous félicitez avec raison de nous avoir été si facilement rendus. Comment un esprit avide d'instruction a-t-il pu, au milieu d'une telle disette de nourriture intellectuelle, consentir à se priver de la conversation de Pekoua ?»«
Je suis disposé à croire, répondit Pekoua, qu'il hésita quelque temps, car malgré sa promesse, chaque fois que je proposais d'envoyer un courrier au Caire, il trouvait un prétexte de retard. Il fit pendant mon séjour plusieurs excursions dans les contrées voisines et peut-être se serait-il refusé à ma délivrance s'il avait rapporté plus de butin. Il revenait toujours empressé, me racontait ses aventures, se plaisait à écouter mes observations et cherchait à perfectionner mon instruction astronomique. Si j'insistais pour envoyer mes lettres, il cherchait à me tranquilliser par des protestations d'honneur et de bonne foi, et quand il ne pouvait plus décemment repousser mes instances, il repartait avec sa troupe et me laissait gouverner en son absence. Je m'affligeais beaucoup de ces délais étudiés. Je craignais quelquefois qu'on ne m'oubliât, que vous ne vinssiez à quitter le Caire et que ma destinée ne me condamnât à finir mes jours dans l'île qui nous servait de retraite. Je perdis l'espérance et le courage, et comme je montrais peu de goût pour sa conversation, il devint assidu près de mes femmes. Qu'il fût amoureux d'elle ou de moi, c'eût été chose également funeste pour nous, et cette liaison nouvelle était loin de me plaire. Heureusement, mon anxiété dura peu. Comme je reprenais quelque gaieté, il revint à moi, et je ne pus m'empêcher de rire de mes inquiétudes. Il différait toujours d'envoyer toucher ma rançon, et peut-être ne se serait-il jamais décidé si votre agent ne fût venu jusqu'à lui. Il ne voulait pas aller chercher ses torts, mais il ne put le refuser lorsqu'on le lui offrit. Alors il prépara les préparatifs de notre départ comme un homme qui cherche à se délivrer d'un combat intérieur. Je pris congé de ses femmes qui me virent partir avec une froide indifférence. Nekaya, ayant entendu le récit de sa favorite, se leva pour l'embrasser et Raslaz lui donna 100 onces d'or qu'elle remit à l'arabe au lieu des 50 qu'elle lui avait promises. Chapitre 40 Histoire d'un savant. Ils retournèrent au Caire et furent si charmés de se retrouver tous ensemble qu'aucun d'eux ne songeait plus à s'éloigner. Le prince commençait à aimer l'instruction. Il déclara un jour à Imlac que son intention était de se consacrer aux sciences et de passer le reste de ses jours dans l'étude et la retraite. Avant de faire un choix définitif, dit Imlac, il faut en examiner toutes les conséquences et entendre ceux qui ont vieilli seuls avec eux-mêmes. Je sors en ce moment de l'observatoire d'un des astronomes les plus savants du monde, qui a employé 40 ans à contempler les mouvements et les aspects des corps célestes et qui n'a cessé pendant ce long intervalle de livrer son esprit à des calculs interminables. Il admet un petit cercle d'amis une fois par mois à venir entendre chez lui ses observations et jouir de ses découvertes. Je lui fus présenté comme un savant digne de son intérêt. Les hommes d'une instruction variée, qui ont l'élocution facile, sont ordinairement bienvenus près de ceux qui ne cultivent qu'une science et dont l'esprit, absorbé par une contemplation unique, perd de vue les images des autres objets. Mes observations l'enchantèrent. Il sourit au récit de mes voyages. Il était heureux d'oublier les constellations pour redescendre un moment dans ce monde sublunaire. Au jour suivant de réception, je renouvelai ma visite et fus assez heureux pour lui plaire encore. Il se relâcha dès lors de la sévérité de sa règle d'admission et me permit de le voir chaque fois que je le voudrais. Je le trouvais toujours occupé et toujours content de saisir un sujet de distraction. Comme nos connaissances étaient différentes, nous prenions plaisir à nous communiquer mutuellement ce que nous savions. J'entrai chaque jour plus avant dans sa confiance, et ce fut pour moi-même une cause toujours nouvelle d'étonnement que la profondeur de son esprit. Son intelligence est vaste, sa mémoire aussi étendue qu'heureuse, ses discours pleins de méthode et ses expressions d'une clarté parfaite. Il a autant de bienveillance et de probité que de science. Il interrompt volontiers ses recherches les plus profondes et ses plus chères études toutes les fois qu'il peut faire le bien par un conseil ou par des largesses. Sa retraite, même dans les moments les plus occupés, est accessible à ceux qui ont besoin d'assistance. « Car, dit-il, si je ne veux ouvrir ma porte ni à la paresse ni au vain plaisir, je ne la fermerai jamais à la charité. Il est permis à l'homme de contempler les astres, mais il lui est commandé de pratiquer la vertu. » « À coup sûr, dit la princesse, cet homme est heureux. » « Je rendis mes visites de plus en plus fréquentes, dit Imlac, et chaque fois j'étais plus amoureux de sa conversation. Il était sublime sans orgueil, civil sans cérémonie et communicatif sans ostentation. Je fus d'abord grande princesse de votre opinion. Je le croyais le plus heureux des hommes et souvent je le félicitais du bonheur dont il jouissait. » Ces éloges de son sort étaient les seuls qu'il entendit avec indifférence. Il y faisait toujours une réponse générale et tournait la conversation vers quelque autre sujet. À travers ce désir d'être heureux et ses efforts pour plaire, je démêlai promptement qu'un sentiment pénible pesait sur son cœur. Tantôt, il levait des regards empressés vers le ciel et la parole lui manquait au milieu de son discours. Quelquefois, lorsque nous étions seuls, il me regardait en silence avec l'air d'un homme qui brûle de dire ce qu'il est cependant résolu de taire. Souvent, il me faisait prier de venir en toute hâte. Rendu chez lui, il n'avait rien d'important à me dire. D'autres fois, au moment de nous séparer, il me rappelait, réfléchissait un moment, puis me laissait partir. »